Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, matheux, matheurs et amateurs. Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Onde Curieuse. Bonne pioche. Aujourd'hui, on pousse les portes du château d'Aubenas. Première à gauche, on emprunte une route sans fin jusqu'à nous retrouver dans une rouge clairière pour habiter le monde et peut-être pleurer devant la fin d'un manga. Tout ceci n'est qu'histoire sans queue ni tête, de rigolote mythologie ardéchoise. Pas sûr. Vous aurez peut-être repéré dans cette invitation à entrer dans le château Centre d'Art Contemporain et du Patrimoine d'Aubenas le nom des 5 expositions qui ont, depuis son ouverture, il y a presque 8 mois, fait venir et réagir plus de 30 000 curieux ou amateurs. Alors, l'art contemporain contente-t-il nos contemporains ou ses contempteurs? Et quid du patrimoine? Parlons-en, on fait un petit point d'étape de la saison avec nos invités qui viennent nous parler aussi de la suite. Nos invités, c'est Clémentine Planche, chargée d'exposition. Bonjour Clémentine.
Bonjour, merci beaucoup.
Ivana Mouton, responsable de la communication et du mécénat. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Et Sandra Compère qui n'est pas là. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Donc tu ne parleras pas.
Je ne parlerai pas.
Non, tu as la communication, mais tu ne parleras pas. Merci d'être là quand même pour ne pas parler avec nous. Et également, Sylvain, la réalisation. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Et puis Clara, bonjour Clara.
Salut Sophie.
Clara, à la préparation et à l'agenda. Alors, quoi de neuf?
Vendredi, c'était l'Assemblée Générale de l'Association de Sources Sûres qui chapeaute la radiofréquence 7, un chouette moment sous forme d'émission radio en direct, mais pas en direct. Mais si vous n'avez pas pu être présent, pas de problème, la soirée est visible sur la chaîne YouTube de Solidaires d'abord, donc pluriel 94, pluriel au singulier, mais
au masculin,
au masculin et au pluriel. Merci.
P-L-U-R-I-E-L-S, ce sera plus simple. Et puis 94, c'est-à-dire 8014. Voilà, vous y êtes. Repassez-vous cette super soirée sur de l'AG de fréquence 7. Non, c'était un chouette moment.
C'était un chouette moment. Demain, à 20h, au cinéma Le Navire, à Aubenas, il y a la projection du documentaire « Les oubliés de la belle étoile » de Clémence Davigo, en présence de la réalisatrice et des protagonistes. En quelques mots, Dédé, Michel et Daniel ont tous les trois passé une partie de leur enfance dans le centre de redressement de la belle étoile, en Savoie. Leur séjour dans ce lieu entre les années 1950 et 1970 a bouleversé leur vie. Avec la complicité de la réalisatrice, ils se réunissent pour briser le silence. La séance est suivie d'un échange animé par Chloé Vurpillo d'Ardèche Images avec la réalisatrice. La projection, c'est demain à 20h au cinéma Le Navire. Il est conseillé de réserver via le site du cinéma. Et on continue cet agenda, toujours avec du cinéma. Et 2 ciné-goûtés pour les enfants au cinéma Les Quinconces de Vals-les-Bains, mercredi. Le premier est à 14h30 avec le film d'animation Une nuit aux zoo, qui est conseillé à partir de 8 ans. Et attention, il y a des scènes qui peuvent être impressionnantes à voir pour le jeune public. Une nuit, une météorite s'écrase au zoo Cole Pepper, libérant un virus qui transforme les animaux en mutants zombies baveux. Gracie, une jeune louve excentrique, s'associe avec Dan, un puma bourru et redoutable, pour élaborer un plan pour que les animaux redeviennent eux-mêmes. Avec l'aide d'un groupe de survivants, ils se lancent dans la mission périlleuse pour vaincre les zombies déterminés à répandre le virus au-delà des murs du zoo. Tout un programme. Et la deuxième séance, c'est le film Paddington au Pérou à 15h. Donc c'est mercredi à 14h30 avec le film Une nuit au zoo, ou à 15h avec Paddington au Pérou, et ces 2 séances seront suivies d'un goûter. Pour les séances, il est fortement conseillé de réserver en téléphonant au Quinconce.
Oui, merci pour le petit point agenda. J'ai oublié de vous dire également qu'à la fin de cette émission, vous retrouvez la Minute Asso. Et aujourd'hui, on reçoit Isabelle Lenuz, responsable du pôle ressources économie sociale et solidaire de AMSUD, qui vient nous parler d'un cycle d'ateliers pour vous aider, vous, association, à définir ou redéfinir les bases de votre association. Un cycle de formation qui commencera à partir de mars. Voilà, et bien pour entamer notre sujet du jour, on part sur la route, sur des routes un peu intrigantes et peut-être flippantes. On embarque avec Twin Peaks. Oui, on embarque, hein. On y est avec Angelo Badalamenti qui a construit ce thème, le thème de Twin Peaks, comme beaucoup, beaucoup de chansons, de films de David Lynch. Un choix de l'une de nos invitées, Clémentine, chargée d'exposition au Château Centre d'Art Contemporain et du Patrimoine d'Aubenas, puisqu'elle est là avec Ivana et également Sandra, qui n'est pas là, pour nous parler de la saison qui vient de s'écouler, des 8 premiers mois, et qui nous parleront aussi de la suite. Merci encore à toutes les trois d'être là. Alors, pourquoi ce choix, Clémentine ?
Alors, pour tout vous dire, c'est plutôt un choix de notre directeur, Victor Secrétan, qui nous a fait cette proposition, et plus pour les expositions qui vont arriver, parce que c'est des expositions qui vont avoir pour thématique générale un rêve d'une nuit d'été, donc une référence au songe d'une nuit d'été. Et du coup, c'était vraiment embarqué avec cette musique dans justement cet univers entre réel et fiction qu'on a dans cette série, où on a une part de rêve, de comédie, de ludique aussi. Donc voilà, il voulait nous partager cela pour nous donner un avant-goût des expositions qui arriveront.
Une série qu'on peut voir, qu'on peut revoir, je le dis pour toutes les personnes qui sont ici. Elle est empruntable à la médiathèque d'Aubenas. Vraiment, justement, c'est vraiment un rêve à faire. Donc on est ensemble, voilà, pour faire un petit point après presque 8 mois. Alors il y a des chiffres, il y a certains chiffres, on parle de 30 000 visiteurs.
Oui.
C'est ça. On parle de... Non, je vais vous laisser la parole pour le nombre de scolaires, parce que j'ai vu des chiffres différents.
Oui. Alors... Pour les scolaires en 2024, donc sur juillet, août, septembre, octobre et début novembre, enfin fin novembre, décembre, on est à 550 scolaires. Et là, en fait, en basse saison, donc là, depuis le mois de novembre, on est ouvert, en fait, les jeudis, vendredis pour accueillir des scolaires. Mmh. Donc, principalement des scolaires, en fait, qui viennent d'Aubenas et aux alentours, on va dire. Et là, en fait, jusqu'au mois de mars, on est booké sur tous les... Donc, jeudis, vendredis, on va accueillir plus de 900 scolaires en 2025. Et après aussi, on pourra en réaccueillir à partir du 1er mai, donc là où on réouvre donc, le château avec 4 nouvelles expositions. Donc c'est super de pouvoir accueillir les scolaires qui souvent nous disent qu'ils sont déjà venus avec leurs parents. C'est super. Et après, les médiatrices, enfin l'équipe de médiatrices au château, à chaque fois propose du coup des visites adaptées en fonction du cursus scolaire, etc. Et des ateliers pédagogiques. Et en plus, ils peuvent amener les scolaires à la microfolie qui a ouvert à la mi-novembre aussi au 18A. Donc un équipement aussi de la ville d'Aubenas. Donc ils essayent de croiser un petit peu tous les médiums pour pouvoir permettre l'accès à l'art contemporain auprès des plus jeunes. Donc ça va de la maternelle jusqu'au lycée.
Alors là, on parle de chiffres. Est-ce que vous avez vu, vous, déjà une évolution, c'est-à-dire un bouche à oreille parmi les enseignants? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes ou il y en avait déjà énormément au début et puis ça se tasse un peu? Comment ça évolue?
Il y en a eu en fait un peu beaucoup d'un coup. Enfin, en fait, tout le monde attendait un petit peu qu'on propose une offre un peu pédagogique. Enfin, les enseignants étaient quand même très à l'affût des nouveautés, des actualités du château. Donc on a été quand même vite sollicités. Donc après, nous, on essaye de s'arranger pour accueillir un maximum de scolaires. Après, on fait comme on peut. Et puis après, ça va se faire aussi sur le temps de pouvoir accueillir tout le monde. Mais on a été quand même très sollicités. Il y a vraiment un engouement, enfin une envie du moins des enseignants d'inclure en fait le château dans l'offre pédagogique. Donc c'est super de pouvoir créer du lien comme ça avec les scolaires, autant les enfants que les enseignants, de pouvoir créer des choses ensemble.
Parmi les autres chiffres qui sont mis en avant, c'est le nombre de passes.
Oui.
Qui a été
vendu. Enfin, super encourageant, je trouve, parce que du coup, là, on a vendu, je pense, un peu plus de 1500 passes et presque 1000 passes albenaciens.
Dont
1000 passes albenaciens, voilà, c'est ça. Donc, les passes annuelles, en fait, ça permet d'accéder au château et aux expositions en illimité toute l'année. Et ça permet aussi d'avoir des réductions et de la gratuité sur certains événements. Et en fait, le fait d'avoir vraiment donc, autant de personnes qui achètent un pass, ça montre aussi qu'on répond à une demande. Et donc ça montre vraiment qu'il y a un public qui attendait en fait qu'un lieu comme le château ouvre ici, donc autant sur la proposition patrimoniale que artiste, enfin que sur l'art contemporain, que sur les événements, les rencontres avec les artistes, les commissaires d'exposition. Donc c'est super en fait de voir que enfin il y a vraiment un public pour ça. Et aussi c'est super quand on organise des événements, etc., des visites un peu insolites, enfin on reconnaît un peu des visages, des personnes qui viennent tous les jours. Enfin, ça c'est très très encourageant, je trouve, de voir que enfin on avait déjà un public qui nous attendait et qui répond présent à chaque proposition qu'on fait. Donc ça c'est très encourageant. Au-delà des 30 000 visiteurs en 2024, je trouve que enfin fidéliser un public c'est super. Et du coup, puisqu'on est encore une jeune institution, enfin le château c'est un jeune bébé de la fin du XIIIe siècle, mais c'est super de voir que quand même dès l'ouverture il y avait vraiment une attente et que enfin les publics viennent et reviennent, donc ça c'est super.
Est-ce que vous avez directement des retours de visiteurs? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en
Oui. Alors, l'entrée du château, on a un livret d'or, donc où on recueille tous les avis, positifs comme négatifs. Enfin, après, c'est l'art, donc c'est subjectif, donc ça évoque quelque chose en bien comme en mal. Donc c'est super aussi de pouvoir avoir les retours des publics. Enfin, il y a vraiment de tout âge, ça peut être Thibaut de 9 ans comme Marie-Charlotte de 86 ans. Enfin, c'est super chouette d'avoir vraiment de tous les avis. Et après aussi, moi du coup, je m'occupe des réseaux sociaux, donc je suis aussi en direct avec des personnes qui vont nous écrire directement, etc. Enfin, on a quand même le retour des publics et puis toutes les personnes, enfin les médiatrices, les agents de la billetterie, etc. Eux aussi, enfin. C'est aussi la chance d'être dans une petite ville, c'est d'avoir aussi un rapport un peu privilégié avec le public. En plus, là, en basse saison, où il y a quand même moins de monde, donc on peut un peu plus échanger. Donc c'est chouette aussi d'avoir les retours directs des visiteurs.
Et comment vous les prenez en compte? Est-ce que c'est possible de les prendre en compte? Notamment dans le choix... C'est presque électoral. Enfin, je veux dire, comment vous prenez en compte justement les réactions du public, notamment pour la programmation des futures expos?
Si c'est sur l'expérience un peu visiteur, donc comment ils ont trouvé le, par exemple le circuit de visite, s'ils ont eu toutes les informations pour organiser leur visite, etc. Ça, c'est des choses où on peut, enfin, relativement s'adapter. Et en plus, puisque ça fait pas très longtemps qu'on est ouvert, enfin, on ne cesse de s'adapter, de revoir un petit peu tout le fonctionnement pour s'améliorer. Après, pour tout ce qui est exposition, là, je laisse Clémentine répondre.
C'est vrai que pour la programmation, nous, on la prévoit quand même à l'avance. Donc là, par exemple, pour Habiter le Monde, on a vraiment proposé quelque chose qui permettait de parler à tout le monde avec des œuvres très diverses. Et on voulait vraiment que ça ouvre au plus grand monde et que ça amène cette curiosité-là. Et aussi de montrer toutes les autres formes d'art contemporain qui existent et qu'on allait présenter. Donc c'est vrai que là, comme le dit Ivana, on est encore tout jeune, donc on découvre aussi ce que les gens aiment, ce qui fait parler et tout. Notre objectif aussi, c'est de faire... Enfin, l'objectif de l'art, c'est de faire débat aussi. Donc, ces réactions, qui soient aussi bien négatives que positives, on aime les prendre en compte parce qu'on voit que ça fait réagir. Et c'est notre objectif, vraiment, c'est de pouvoir permettre... Enfin, pour moi, le centre d'art, c'est un espace de débat. Et c'est pour ça que, peut-être au niveau de la programmation, on souhaite proposer des choses peut-être différentes, des choses qui interpellent, qui amènent ce débat-là. Mais du coup, on a le souci ensuite d'en débattre, de discuter via aussi notre programmation culturelle qu'on propose avec ses rencontres, avec les commissaires, les artistes. Donc bien sûr, on prend en considération, c'est très important pour nous, mais on ne veut pas non plus se priver de montrer des choses ou être guidé par des demandes particulières. On les entend, ça nous pousse aussi à réfléchir les futures programmations, mais on est aussi là pour faire débat et pour faire réfléchir.
Et alors, qu'est-ce qui a fait, par exemple, le plus débat ? Ou qu'est-ce qui vous a le plus... Enfin, qu'est-ce qui a interpellé le plus ?
Alors, on a l'œuvre de Céleste Boursier-Mougenot, qui a fait beaucoup débat, parce qu'accueillir du vivant dans une exposition, c'est jamais très évident.
Est-ce que tu peux nous rappeler ? Est-ce que tu peux rappeler aux auditrices ?
Pardon, désolée, ça me paraît tellement... c'est tellement mon quotidien, désolée. Oui, alors, l'œuvre de Céleste Boursier-Mougenot, qu'on a présentée pour l'exposition Habiter le Monde, était présentée dans cette grande salle du château qui s'appelle la salle du pesage. Et on avait une dizaine de guitares électriques qui étaient posées dans cette salle du pesage et une cinquantaine d'oiseaux de diamants mandarins, c'est une espèce spécifique, qui venaient se poser sur les guitares et générer des sons, des accords quand ils se posaient sur les cordes. Et du coup, faire venir comme ça 50 diamants mandarins, c'est sûr que ça questionne. C'est une œuvre qui est très poétique, qui est très belle et on est très très content de l'avoir montrée. Mais c'est vrai qu'accueillir du vivant, ça questionne, et moi je l'entends parfaitement, donc ça a créé beaucoup de débats. Donc c'est une œuvre aussi, moi je l'ai trouvée très belle pour ça aussi, pour ouvrir le château, parce que ça a commencé cette discussion-là sur qu'est-ce que l'art contemporain et quelle forme ça peut prendre. Et là on peut dire que j'ai pleuré devant la fin d'un manga, ça amène aussi à beaucoup de débats, parce que c'est
donc
des...
Donc une exposition qui est toujours en cours, qui est en cours jusqu'à la fin du mois de mars.
Exactement. Alors cette exposition qui présente 7 artistes internationaux amène vraiment à amener... Enfin, est peut-être un petit peu plus pointue que ce qu'on a pu montrer jusque-là. Il faut vraiment s'immerger dans cet univers. Et sauf que ça montre aussi des œuvres qui sont parfois... qui sont grises, je sais pas comment dire, c'est ni féerique, c'est ni monstrueux, c'est un entre-deux qui fait que ça peut être des fois un peu dérangeant ou un peu étonnant. Et du coup, c'est des zones qui amènent à ce débat, ces zones grises. Donc on voit que ça fait réagir et c'est intéressant aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le livret d'or ou même on a eu une rencontre la semaine dernière et ça interpelle et c'est intéressant pour ça.
Oui, c'est une exposition effectivement qui ne laisse pas de marbre, mais c'est au moins ce qu'on demande à l'art contemporain. C'est vrai que j'ai été assez étonnée de voir cette exposition, mais finalement de manière très positive, parce que effectivement ça dérange, ça questionne. Je ne savais pas qu'il y avait autant finalement de presque de violence. Enfin, moi qui ne connais pas très très bien le manga. Il y avait autant de violence, de questionnements aussi sexuels, etc., autour du manga. Alors, tu viens de parler justement de la rencontre qu'il y a eu vendredi dernier. Vous ouvrez donc toujours ces débats, ces rencontres. Et ce mercredi, il y en a une autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc ce sera autour de l'exposition « Dans une rouge clairière ». je sais pas qui veut en parler.
Oui, oui bah, je,
Clémentine.
Je peux le faire. Donc, on a demandé voilà, à chaque, pour chaque exposition aux artistes et commissaires de voilà, inviter au débat dans le cadre de ces rencontres. Et quand on a demandé au duo d'Ilmer-Froid comment ils voulaient que cette rencontre ait lieu, ils ont tout de suite voulu inviter Hervé Rousseau, qui est un peu le grand ponte, enfin un des grands pontes de la céramique en France, qui est un sculpteur céramiste, avec qui ils ont fait une résidence pendant 2 ans à La Borne. La Borne, c'est un petit village dans le Berry, qui est très réputé ben voilà, pour être le grand lieu de la poterie en France. Et donc ils ont fait cette résidence pendant 2 ans, alors je crois que c'est 2021-2022. Ils ont notamment fait une œuvre qu'on peut voir qui est présentée au château actuellement dans la cour du château. C'est une table avec des traverses en bois de chemin de fer avec des corbeaux dessus. Et juste en dessous, on a des, enfin, ce qui fait les pieds de la table, en fait, ce sont des céramiques réalisées par Hervé Rousseau. Et en gros, dans cette exposition, on peut voir de nombreuses céramiques réalisées cette fois-ci par Ilmer-Froid. Et il voulait un peu rendre hommage dans cette rencontre à cette personne, Hervé Rousseau, qui leur a vraiment... ben, voilà, qui les a éduqués, qui les a montré le savoir de la céramique. Et donc, ils ont voulu l'inviter. C'est vraiment l'invité principal de cette rencontre. Et ça va être une table ronde à 4 voix, parce qu'il va y avoir les 2 artistes, du coup, de Ilmer-Froid, ainsi que Victor Secrétan, qui est le directeur du château et le commissaire de l'exposition.
D'accord. C'est une rencontre ouverte à tous, gratuite ?
Oui, c'est mercredi à 18h et c'est gratuit. Et la réservation est fortement conseillée. Il reste quelques places, mais il faut se dépêcher.
D'accord. Réservation donc auprès du château. Eh ben on continue sur les perspectives. Alors, tu as commencé déjà un petit peu à l'évoquer, Clémentine. 4 nouvelles expositions. Donc, il y aura juste 1 mois, j'allais dire, pour souffler, mais pas vraiment. On va démonter et puis monter les expositions. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ces quatre nouvelles expositions ?
Oui, alors, on va ouvrir le 1er mai avec 4 expositions de 4 artistes différents. Donc, ce sont des expositions personnelles, des monographies. On va avoir au rez-de-chaussée le travail de Sabine Moritz, qui est une artiste peintre allemande. Alors, on va plutôt montrer sa phase qui est celle de l'abstraction. Alors, pardon, c'est une artiste qui est encore vivante, qui est née en 1969. 69. Oui, merci, bravo. Et du coup, on va plutôt montrer son travail à partir des années 2015, où vraiment de la peinture figurative, des œuvres où on voit des éléments qu'on peut comprendre, qu'on peut appréhender. Et là, elle est partie à partir de 2015 vers une œuvre qui est beaucoup plus vers l'abstraction. Et donc, on va vraiment montrer plutôt cette période-là. C'est des œuvres qui sont vraiment... Enfin, on sent... c'est des couleurs qui sont vibrantes. On voit la gestuelle de l'artiste. Et c'est des grandes toiles. Donc, on a hâte de les montrer. Ensuite, au premier étage, on va avoir 2 expositions. Donc, on va avoir la première qui est celle de Corentin Grossmann, qui est... un artiste qui est né, si je ne me trompe pas, en 80... Pardon, en 80, exactement, c'est ça. Qui est né en 1980, qui est français, mais qui vit en Belgique, enfin, vit et travaille en Belgique. Lui, il fait du dessin et aussi un peu de céramique. Et c'est vraiment dans ses peintures un univers qui est vraiment très, très foisonnant. C'est montrer vraiment des figures, des éléments à différentes échelles, montrer un peu, en fait, tout ce qui existe dans le monde. Et c'est aussi bien des choses qui peuvent être difficiles que des choses très douces, que des choses comiques. Et tout ça, il est réuni dans ses œuvres pour proposer tout un monde qui pourrait être un rêve éveillé, mais qui au final est ce qu'on peut voir dans la réalité et qui cohabite à différentes échelles.
Ça peut faire penser aussi à des œuvres de Jérôme Bosch.
Exactement.
Ou des choses comme ça. Très très foisonnantes et voilà, comme tu dis, qui mêlent un peu le rêve, on ne sait pas très bien où on est.
Oui, c'est ça, et puis il y a un côté un peu cocasse, humoristique, il y a des références, des fois un petit peu sexuelles, mais qui sont vraiment très légères, ou vraiment des choses très drôles, des personnages, des animaux qui sont un peu hybrides, donc... Voilà, ça fait vraiment penser à Bruegel ou à Bosch, effectivement.
Et là, donc, ce sera uniquement ces peintures qui seront proposées ?
Non, alors, c'est beaucoup de ces dessins et quelques céramiques.
D'accord.
Ce sera à peu près 30 œuvres. Ensuite, on a, toujours au premier étage, on a une autre exposition qui est celle de l'artiste Ella Walker, qui est née en 1993, qui est une artiste peintre londonienne. Et elle revisite en fait vraiment dans ses tableaux plein de références à la Renaissance, aux comédiens de la Commedia dell'arte. On a par exemple des références à Arlequin, on a aussi des références au film avec Pasolini et Fellini. Et en gros, elle joue de toutes ces références anciennes pour proposer, pour les mettre à l'aune de l'actualité, en proposant notamment un regard très, on va dire, très féministe sur les figures féminines dans l'art, qui, pendant la Renaissance, étaient plutôt vues comme des, pas des objets, mais en tout cas, comme un regard masculin posé sur le corps féminin. Et là, justement, elle invite à reprendre ces références-là et à poser cette fois-ci un regard féminin sur ces femmes. Donc, ça va être très chouette. Et c'est aussi sa pratique, sa technique fait vraiment penser aux fresques de la Renaissance. Enfin, voilà, on a ce jeu de références historiques qui est très belle à voir.
Mmh. Un beau regard et un quatrième regard que vous allez proposer, puisque c'est celui du photographe qui est décédé il y a quelques années, 4-5 ans, Gilbert Garcin, donc avec ses photomontages un peu surréalistes.
Oui, c'est ça. Alors, c'est des photos en noir et blanc, et c'est une œuvre que je trouve très touchante, où c'est un monsieur qui, à la retraite, a décidé de se mettre à la photographie un peu par hasard, alors qu'il a... Il a gagné un stage aux Rencontres d'Arles suite à un petit concours amateur. Et il découvre en fait tout l'intérêt du montage et de la photographie. Et donc dans son jardin de famille, dans un petit atelier, il commence à créer un petit théâtre où il se met lui en scène. Alors il y a tout un processus où il commence où il modifie son personnage. Mais ça vous pourrez le découvrir pendant l'exposition. Mais pour être très bref, il se met en scène avec tout un petit décor qu'ensuite il photographie. Et en fait, c'est des choses très simples, mais qui parlent de grandes choses, qui est celle de la condition humaine. Donc il a amené via ses photographies à parler aussi bien du couple que des valeurs que l'existence humaine amène, que la temporalité et ce genre de choses, ou aussi lui-même en tant que jeune artiste d'un certain âge, comment il se place dans l'art contemporain et dans ce monde de l'art. Donc on a hâte de montrer ça, ça va vraiment, je pense, parler au plus grand nombre, et c'est très ludique comme exposition.
Super, merci beaucoup. Donc 4 nouvelles expositions à partir du 1er mai. Là on a parlé d'art contemporain, sauf que c'est un centre d'art contemporain et du patrimoine. Alors, cette version patrimoine,
alors,
Ivana.
Pour cet été, on va ouvrir une salle dédiée en fait au patrimoine du château, donc qui ouvrira ses portes sans doute au mois de juillet. Ici, en fait, on va parler surtout des principales mutations du château, donc puisqu'il a été construit à la fin du XIIIe siècle à des fins défensives. Après, il a évolué développer un petit peu plus le volet résidentiel. Et la troisième grande mutation, ça a été la création du centre d'art contemporain. Donc ici, il y aura plusieurs explications sur ces grandes mutations, sur le travail de rénovation. Et sera projeté aussi le film Au Château, donc de Grégoire Edouard, donc un film commandé et produit par le château. Donc Grégoire a suivi le chantier du château et a pu donc montrer par son objectif, par son regard à lui, l'évolution, la transformation du château et les artisans qui ont pu travailler pendant des années en fait sur ce projet.
Donc, pendant 7 ans.
Exactement. Donc l'ouverture de cette salle. Et ensuite, on a toujours le livret historique à l'accueil du château, donc qui aide aussi à donner donc des compléments d'information sur le volet plus historique du château. Pareil, les découvertes pendant le travail de restauration. Et aussi cet été, on sort un livret famille à destination des jeunes publics et des familles pour découvrir les expositions et surtout le patrimoine du château de manière ludique et pédagogique. Voilà, je place ça là.
Ouais, très bien. Juste avant de nous quitter, il y a aussi un autre chantier que vous ouvrez. Ça, c'est vraiment des questions, j'imagine, que vous avez sur le financement du château, donc financé à 90% par la municipalité. Et l'un de vos objectifs, là, c'est vraiment de diversifier les sources de financement.
Oui, exactement. Là, en fait, on est sur le lancement d'un fonds de dotation, donc pour pouvoir ensuite développer tout ce qui est de l'ordre du mécénat et de la privatisation d'espace, puisque c'est vraiment des choses qui seront possibles au château. Et l'idée, après, ce sera donc de trouver donc des mécènes, enfin des personnes qui auraient pour volonté de s'impliquer dans le projet du château, donc dans tous les projets tels qu'ils soient, donc les expositions, les choses pour les scolaires, les publics, etc. Donc on a vraiment cette volonté voilà, de développer d'autres ressources pour pouvoir monter d'autres projets.
D'autres ressources, et tu le disais Clémentine tout à l'heure, même au sein des expositions, vous essayez d'avoir des subventions liées à telle ou telle exposition ?
Oui, c'est ça. Exactement. On cherche aussi, quand on a des artistes notamment étrangers, on cherche des subventions qui permettent vraiment d'aider à produire les œuvres d'art des artistes qu'on présente.
Super. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous rendre visite ici à Fréquence 7 pour nous parler de ce que vous faites au château. Et puis on aura sans doute l'occasion de faire une émission un peu plus importante sur justement les expositions. Tu nous as donné très très envie.
Tant mieux, on a hâte de vous voir.
À partir du 1er mai donc. Et bien maintenant c'est l'heure de la Minute Asso.
La Minute Asso.
Avec sa voix de crooner, Sylvain. Dans la Minute Asso de ce lundi, nous recevons Isabelle Lenuz, responsable du pôle ressources, économie sociale et solidaire de Ham Sud, qui vient aujourd'hui nous parler d'un cycle d'ateliers qui va vous aider, vous, association, à définir ou redéfinir justement les bases de votre association. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce cycle de formation ?
Oui, alors c'est un cycle qui a été imaginé par trois structures qui font de l'accompagnement à la vie associative, donc Ham Sud, le CDOS, le Comité départemental olympique et sportif de l'Ardèche, et la Fédération des foyers ruraux de Rome-Ardèche. En fait, on accompagne dans notre quotidien des porteurs de projets, donc qui ont des projets associatifs et aussi des associations. Et l'idée de ce cycle, c'est de proposer donc 2 jours pour aborder tous les aspects de la création d'une association. Donc les statuts, bien évidemment, qui permettent d'officialiser la structure. La gouvernance, comment on organise ces instances par rapport à comment on a envie de fonctionner. Parce que c'est une des spécificités du statut associatif, c'est qu'on a une très grande flexibilité, en fait, sur comment on veut s'organiser. Donc autant les traduire dans les statuts. Et on aborde aussi le projet associatif. Le projet associatif, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire quand on crée une association. Mais c'est un document qui peut être intéressant déjà pour bien se mettre d'accord sur ce que l'on fait ensemble. En fait, au-delà de l'objet social qui est défini dans les statuts, c'est aller plus loin d'un point de vue opérationnel, comment on traduit en fait ce que l'on a envie de faire dans l'association. Et ça peut être à court, à moyen, voire à long terme aussi. Donc ça peut permettre aussi de donner la vision. Donc ça sert à la fois en termes d'échange, de communication interne, mais également vis-à-vis de l'externe, si on veut mobiliser de nouveaux bénévoles, pour expliciter aussi au niveau éventuellement des financeurs, des partenaires. Enfin voilà, du coup c'est un document qui... Enfin ça peut se traduire par un document ou toute forme graphique, hein, mais en tout cas c'est des éléments importants à avoir... si on peut le travailler idéalement au démarrage du projet, c'est pas mal, sachant que c'est pas des choses qui sont figées dans le temps et qu'on peut le réinterroger à tout moment, le projet associatif. Mmh. Mais en tout cas, ça donne une vision un peu commune, quoi.
D'ailleurs, le cycle d'atelier, c'est pour créer ou faire évoluer son association.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fonction aussi de l'évolution de l'association, peut-être des nouvelles forces vives qui intègrent l'association, ça peut être à un moment donné intéressant de reposer un peu tout ça. Et donc, cet atelier, il est à la fois pour des gens qui veulent créer l'asso ou alors qui veulent se réapproprier le projet associatif.
Il y a 2 dates, donc c'est le 21 mars et le 4 avril de 10h à 16h à l'USAS. Est-ce qu'il est nécessaire de participer à ces 2 journées ou c'est à chaque fois une journée où on voit l'ensemble des questions ?
Non, on l'a pensé sur 2 journées, en fait. L'idée, c'est d'avoir un atelier spécifique sur les statuts, un autre plutôt sur la gouvernance et le dernier plutôt sur le projet associatif. Mais l'idée de se donner de temps, c'est du 10h à 16h les 2 journées. C'est aussi d'avoir vraiment un espace de foire aux questions, notamment la dernière demi-journée, pour pouvoir confronter un petit peu ses réflexions et se laisser du temps pour mûrir aussi au vu de ce que l'on aura vu cette journée et demie, en fait.
C'est gratuit ?
Donc c'est gratuit car pris en charge par le Fonds de développement de la vie associative, donc gratuit pour les participants. Mais par contre, bien sûr, pour d'un point de vue organisation, on demande une inscription. Mmh. Cette inscription peut se faire sur le site Guide Asso Ardèche. Donc c'est Guide Asso 07, voilà. Et donc vous avez dedans une partie formation événement où vous trouvez toutes les dates et donc possibilité de s'inscrire pour le 21 mars sur ce site. Donc le Guide Asso, c'est vraiment un espace où on, au service des associations ardéchoises pour trouver de l'information sur qui accompagne les associations, quels sont les événements qui peuvent les intéresser. Voilà, donc c'est un site qui est assez bien alimenté et qui peut aider aussi les associations par rapport aux événements qui se présentent à eux, aux questionnements qu'ils ont.
Mmh. Un site essentiel qu'on recommande d'ailleurs presque à chaque minute asso, Guide Asso 07. Merci beaucoup Isabelle.
Merci.
La minute asso.
Et c'est la fin de cette émission. Reste à l'écoute de Fréquence 7 puisqu'à 13h on poursuit avec de la poésie. Haïku tout court, à 15h il n'y a pas de Telex, à 17h la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h solidaire d'abord, à 19h on danse avec l'écho du parquet, votre rendez-vous des danses folk et néo-trad, et à 21h on termine en beauté avec Hexagone Jazz NB, consacré ce soir à Roy Eldridge, un petit séjour prolongé en France à la fin des années 50 pour se frotter à la scène parisienne. Et il en résulte un Hexagone Jazz NB. Ciao.